RCF.
Bonjour à tous et bienvenue dans Effervescence et merci pour votre fidélité à notre magazine de l'étonnement culturel. À la veille des vacances, c'est un feu d'artifice de coup de cœur qui vous attend dans cette émission. Mais avant de vous présenter tout ça, mon hommage du jour. Cette semaine, mercredi précisément, on aurait dû sortir guitare sommaire, violon de zigane et surtout hélicon, tube de toilette et saucisson de cheval pour honorer les 50 ans de la disparition d'un des trublions de la chanson française, j'ai nommé Bobby Lapointe. Bobby Lapointe qui aurait fêté ses 100 ans au printemps et dont le centenaire est l'occasion d'une réédition de la cinquantaine de ses chansons dans un très bel album. Bobby Lapointe, c'est le roi des calembours, le prince des jeux de mots, le marquis de la contrepétrie. C'est aussi le créateur de mélodies qui, sous des airs faussement faciles, convoque salsa, tango, musette, avec des orchestrations des plus complexes. Mais on n'aura rien dit de notre homme si on ne précise pas qu'avant tout, Bobby Lapointe est un poète qui roule les mots, les emberlificote, les entrechoque pour faire naître sourire et images un peu désuètes pour enfants pas vraiment sages. J'en étais à ces réflexions hier quand en me dirigeant vers la boulangerie de mon quartier, avec dans mes oreilles la chanson du petit homme qui vit d'espoir, j'ai bien failli terminer sous les roues du scooter d'un très gentil jeune homme. Si vous aussi, vous écoutez cette chanson du petit homme qui vit d'espoir, et on le fera à la toute fin de cette émission, vous comprendrez mon trouble. J'étais totalement sous le charme de ce magnifique poème d'amour. Je marchais complètement amouraché de ce tendre troubadour qui ne vit que pour l'amour, c'est comme ça que dit Bobby dans une autre de ses chansons, qu'en patatras, j'ai bien failli mourir. Les histoires d'amour finissent mal, surtout chez Bobby Lapointe, et j'ai bien failli rejoindre le petit homme qui vit d'espoir, dont le sang finit par éclabousser la tour Eiffel et les habits des touristes, pour la plus grande joie des pressings du quartier. Car c'est tout Bobby Lapointe, dont la poésie est faite de tendresse, de fantaisie, mais aussi d'absurde. Alors, morale de l'histoire, écoutez Bobby Lapointe et regardez avant de traverser. Mais surtout, surtout écoutez Bobby Lapointe, écoutez-le avec vos enfants, la maman des poissons, mais pas seulement. En ce moment, on a bien besoin de ses sourires, mais aussi de sa mélancolie qui nous rappelle que nous sommes bien vivants.
Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
Alors Takati Takité, mais eux sont bien là, pas de Bobo Léon, ils sont en pleine forme, ce sont les chroniqueurs d'Effervescence. François Huguenin est à mes côtés avec des coups de cœur cinéphiliques et pop. François, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Alors vous avez revu La Maman et la Putain et le film de Jean Eustache, vous nous direz pourquoi c'est un film culte. Et puis votre côté pop n'est jamais bien loin avec un nouvel EP d'un artiste qui vous est cher, c'est Olivier Rocabois. Delphine Fraissinet, vous êtes avec nous depuis Bruxelles, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
On le savait déjà, on le devinait, mais aujourd'hui on a la preuve. Vous êtes la plus midinette de nous tous. Vous allez réussir, dans une même émission, à nous parler et d'Elvis et de Sissi, impératrice. Michel, vous êtes la plus marseillaise, bonjour.
Oui, oui, bah, peut-être pas tout à fait la seule, mais pas loin.
Pas bonjour. Loin. Alors, deux expositions aujourd'hui. L'une au Mucem autour des pharaons. L'Égypte est à la mode ces temps-ci. Et alors, une autre exposition à Arles. C'est une exposition de photos. Et cette fois-ci, ce sera l'occasion de nous faire un peu de vocabulaire avec un nouveau
Exactement.
Mot à l'honneur, le
Périsonium.
Voilà, merci. Et je termine avec vous.
Je vous en prie.
Je termine avec vous, Valérie Marniac, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Une fois encore, vous avez fui la capitale pour vous réfugier dans les studios marseillais de RCF aux côtés de Michel. Avec vous, il sera question de Marguerite Duras avec le barrage donné dans quelques jours à Avignon et de Préhistoire avec un documentaire sur la grotte Chauvet. Voilà quatre chroniqueurs et vous, chers amis de l'autre côté du poste, toujours prêts pour commencer Effervescence. Des applaudissements, mais aussi des cigales, c'est tout le charme des festivals d'été. C'était il y a quelques années, la compagnie POC, une compagnie qui renouvelle l'art de la jonglerie. Ça se passait en Ardèche. Et l'été, donc, c'est le temps des festivals. Après 2 ans de pause forcée pour cause de Covid, la culture se remet à l'heure d'été avec foultitude de propositions, plus enthousiasmantes que jamais. Foultitude de propositions, mais encore beaucoup d'incertitudes pour des manifestations bien fragilisées par ces 2 années de jachère. Alors, Michel Tadéhi, vous êtes à Marseille, vous connaissez bien le monde de la culture. C'est vraiment une année cruciale et j'ai envie de dire particulièrement pour le Festival d'Avignon que là aussi vous connaissez bien.
Alors, c'est une année cruciale, je crois, pour tout le monde de la culture, hein, bon, et particulièrement, effectivement, celui des festivals, parce que l'année dernière, on avait essayé de faire une saison, mais j'ai bien essayé, hein, parce que ça avait été un petit peu compliqué. Et là, c'est vraiment la première vraie saison de festival post-pandémie. Et Avignon est sans doute la plus emblématique de ces manifestations encore à problème et fragilisées. Bon, Avignon, ce sont deux festivals, hein, le IN et le OFF. Le OFF, par exemple, cette année, pour rattraper le temps perdu, il y aura 1540 spectacles chaque jour. Wow. Bon, il y en a qui ne vont pas tenir hein, sur la longueur. Le festival OFF, c'est du 7 au 30 juillet, c'est la 56e édition. Il faut savoir que ce festival, en temps normal, rapporte 40 millions au territoire. Ce sont des retombées économiques de 40 millions. C'est énorme. Et c'est 1 700 000 spectateurs. Donc là aussi, ça met en perspective tous les problèmes que ça peut poser lorsque ça ne fonctionne pas. Et cette année, tout le monde espère que ça va fonctionner, mais ça va être très très difficile parce que les loyers pour les compagnies qui louent les salles sont de plus en plus chers. Les gens, les propriétaires essaient de rattraper les deux années où ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc ces compagnies vont beaucoup dépenser, vont investir du temps, de l'argent, de l'énergie, vont perdre à la fois des kilos et des sous. Mais bon, est-ce que ça va marcher ?
Delphine, est-ce qu'en Belgique, il y a autant d'enjeux dans cette édition 2022 des festivals ?
Il y a de l'enjeu parce que c'est vrai que la Belgique est une terre de festivals, hein, notamment musique. Il y en a beaucoup plus que ça, plus de 400 festivals de musique par an. On peut même dire aussi que c'est la Flandre et a le plus grand nombre de festivals par habitant du monde. Voilà, 280 par an. En même temps, par habitant, bon, vous voyez la taille de la Flandre. Voilà. Mais bref, c'était pour le.
Il y a une belle vitalité.
Voilà. Mais c'est vrai que c'est très important puisqu'on on sait très bien que la fréquentation dans le secteur culturel, c'est quand même une baisse de moins 30%. Donc, est-ce que le public va revenir? Surtout que le prix des billets forcément augmente. Il y a eu la facture énergétique qui est en hausse. Le fait qu'il y ait eu aussi un manque de l'événementiel qui a été beaucoup touché par un manque de personnel. C'est difficile de trouver donc des gens. Et puis, c'est pareil aussi pour ce qu'on appelle le catering, ici ça s'appelle le catering, c'est tout ce qui est la partie nourriture en fait des festivals, les repas qui sont distribués. Là aussi, manque de personnel. Donc il y a beaucoup d'incertitudes et d'enjeux donc cette année. Donc on pourra voir à la fin de l'été. Là c'est vrai qu'on pourra déjà prendre un petit peu la température après ce week-end puisqu'il y a le festival Rock Werther qui est l'un des plus importants festivals de musique du monde. Hein. C'est du pop rock. C'est dans le Brabant flamand. Donc, je vous le disais, il y aura Tomorrowland aussi, la deuxième quinzaine de juillet. Ça, c'est la musique électronique du côté d'Anvers. Et ça, c'est vraiment les grosses locomotives hein, du côté de la Wallonie. Il y a les Ardentes, il y a les Francopholies, Aspa. Donc, on verra. Mais effectivement, il y a hâte donc, de voir ce que cette édition va donner pour tous les enjeux qu'on a rappelés.
Valérie, vous, ce que vous aimez, c'est le festival de cinéma. Et là aussi, il y a de l'enjeu ?
Oui, alors l'enjeu est même plus global. Il est pour l'ensemble du cinéma. Et donc, il y a quelques festivals, effectivement, pendant l'été, notamment le FID de Marseille, puisqu'on y est là. Mais plus qu'un enjeu, c'est presque un souhait et un vœu. C'est que le cinéma retrouve son public d'avant Covid. On est dans les mêmes chiffres que ce qu'a dit Delphine, hein, les fréquentations de salles, c'est autour de moins 25%. Et pour ça, alors, il y a quelque chose de très dynamique et qui se développe beaucoup, qui sont les séances en plein air pendant l'été. Et on peut espérer que ce soit l'occasion pour beaucoup de retrouver le chemin des films. Voilà, parce que le cinéma, là, c'est un peu un retour aux sources. Il suffit juste d'un appareil de projection, un grand écran et du public. Et on peut, dans des ambiances uniques de soir d'été, allongé dans des transats, sous les voûtes étoilées, voir des films. C'est souvent assez magique. C'est souvent dans des endroits assez inhabituels. À Paris, le plus ancien, c'était à la la Villette, le festival de la Villette. Ça a commencé en 90. Et il y a quelques nouvelles initiatives. Il y en a une dans la cour carrée du Louvre depuis quelques années qui a été proposée par le MK2. Et pour la première année, MK2 va le proposer dans les jardins de la Fondation Carmignac à Porquerolles, un endroit dont on parle souvent dans cette émission. Donc voilà, donc vraiment, on espère que ça va être un peu l'occasion de redonner le goût des films sur grand écran. Et puis, ça sera le seul endroit où on pourra aller tranquillement, sans masque et en famille, avec le pique-nique. Donc vraiment,
François, pourquoi est-ce qu'on aime autant les festivals? Si c'est un temps particulier pour vivre des expériences inédites?
Alors, je pense que les gens qui vont, enfin, quand on va dans un festival, on se sent un petit peu privilégié. Et je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Le fait de pouvoir goûter, il y a une ambiance. Très souvent, on peut croiser les artistes. Enfin, en tout cas, dans les plus petits festivals, c'est pas toujours très difficile. Il y a une ambiance particulière. Il y a des lieux qui sont plus du tout les mêmes hors festival et qui baignent d'une atmosphère. Et je pense que on a besoin de ça.
Alors, on a cité Avignon, on pourrait citer les Franco, on pourrait citer Jazz in Martiac, les Corrigidos Orange. On connaît les plus célèbres des festivals, mais durant juillet, août, hein, c'est tous les coins de France qui exultent et célèbrent les artistes. Alors, je vous ai demandé à chacun de nous confier un festival plus ou moins connu, cher à votre cœur. Valérie, je vais commencer avec vous et forcément, vous nous emmenez dans un festival de cinéma en plein air. On va en Lozère, c'est ça? Où est-ce qu'on est exactement?
Et ben voilà, c'est mon petit chouchou, c'est tout à fait en Lozère, c'est sur les grandes causses, vous savez, c'est haut. Plateau calcaire et désert qui domine le Tarn. Là, c'est sur le cause de Sauveterre, dans un lieu dit qui s'appelle le domaine de Boissé, qui appartient au département et qui, chaque été, propose tout un ensemble de manifestations culturelles confiées à un collectif d'associations qui s'appelle Ligne d'Horizon. Et parmi elles, il y a effectivement un cinéma itinérant qui est Cinéco, qui fait un travail remarquable tout au long de l'année puisqu'il sillonne toutes les routes des Cévennes. Quand on connaît ces routes, on sait que c'est précieux d'avoir un cinéma qui vient à vous. Voilà, pour voir des films quand il n'y en a pas dans le village où on habite. Et alors, pendant l'été, donc, ils proposent une programmation excellente, vraiment. Alors, c'est le domaine des Boissés, je ne sais pas si j'ai dit le nom, et plus précisément, c'est au-dessus de Saint-Enimy. Voilà, donc c'est 500 mètres plus haut, hein, c'est à plus de 1000 mètres d'altitude, avec c'est assez vertigineux là au-dessus.
Et donc, on emporte son plaid, on s'allonge et on regarde le film, comment ça se passe?
Alors voilà, n'oubliez pas la couverture, parce qu'il fait frais en Lozère, le soir, donc, et après effectivement, tout le reste est proposé sur place, il y a même une petite restauration qui est proposée, et la programmation est vraiment vraiment excellente. Il y a 12 films en tout, il y a des documentaires, La Panthère des Neiges, une comédie british, The Duke, un film d'aventure familiale, Le Chêne, voilà, et le premier film qui ouvre l'été, c'est Icare. Alors c'est un film d'animation, formidable film d'animation qui revisite complètement le mythe du grec, voilà, et qui invente l'enfance d'Icare et qui lui invente notamment une très belle amitié avec le Minotaure avant qu'il soit enfermé dans le labyrinthe. Alors on retrouve tous les personnages du mythe, hein, Dédale, Thésée, Ariane, etc. Mais tout est fondé sur cette amitié entre Icare et le jeune Minotaure, et ça permet comme ça au film d'ouvrir une fin, enfin en tout cas une lecture de la fin du mythe beaucoup plus lumineuse que cette fin que tout le monde connaît, qui est quand même un peu tragique, hein, de ce jeune Icare qui meurt parce qu'il a voulu trop s'approcher du soleil. Et là, non, c'est une lecture un petit peu différente.
Allez,
de cette fin. Et voilà.
On écoute la bande-annonce.
Demain sera un grand jour pour nous. Tu vas venir avec moi jusqu'au palais.
Mon très illustre Dédale, la matière prend vie sous tes mains.
Je t'attendais, oiseau.
C'est toi qui parles dans ma tête? Qui es-tu?
Cette immonde créature doit disparaître. Reviens me voir avec un plan. Où est-il, ce Minotaure?
Prends garde à toi, beau prince. C'est la braise que tu attises.
Non. Princesse, pour combattre le Minotaure, Thésée devra entrer dans le labyrinthe.
Combattre le Minotaure? Je ne peux pas le laisser faire.
Reste où tu es.
Voilà, ça s'appelle Icare. Il sera donc en ouverture de ce festival de cinéma en plein air. Vous nous redites la localisation?
le domaine de Boissé, sur le cause de Sauveterre, au-dessus de Saint-Enimy.
Dans la Lozère. On quitte la Lozère et on va en Bourgogne, dans l'Yonne, avec vous, François, pour un festival de musique, je crois. C'est les Épopées.
Les Épopées au cœur de l'Yonne. Alors, les Épopées, pourquoi ? Parce que c'est l'ensemble, un ensemble baroque, un des meilleurs ensembles baroques français, mais aussi au monde aujourd'hui, qui est dirigé par Stéphane Fuget, qui est un formidable chef d'orchestre et un formidable claveciniste. Et les Épopées au cœur de l'Yonne, c'est un festival qui est très récent, c'est la deuxième édition, donc faut les soutenir. Créé donc par l'ensemble Les Épopées et la chanteuse Claire Le Filiatre, qui est une des plus belles chanteuses baroques, mais pas seulement française aujourd'hui, avec une voix absolument extraordinaire. Et donc ce festival a la caractéristique de se dérouler parallèlement à ou dans le prolongement d'une académie musicale où des musiciens confirmés viennent travailler avec des jeunes talents. Donc il y a vraiment dans cet ensemble Les Épopées, chez Stéphane Fuget et chez Claire Le Filiatre, un sens de la transmission qui est vraiment formidable. Et c'est un festival qui va donc se dérouler à peu près du 5 au 15 août dans Lyon, dans des lieux tout à fait différents et éclatés.
Alors qu'est-ce qu'on écoute ?
Alors on écoute un morceau chanté par Claire Le Filiatre, qui est un anonyme français du 17e, qui s'appelle « Nos esprits libres et contents ».
Nos esprits libres et contents, vivent en ces beaux passe-temps, des gardes si chastes de plaisir, balanissent tous autres désirs.
Nos esprits libres et contents. C'est un peu l'état d'esprit de cette émission dans l'effervescence sur RCF. Voilà, c'est le festival Les Épopées dans Lyon. Alors, on va quitter la France et on vous rejoint, Delphine, à Bruxelles, avec un festival de théâtre qui, je crois, est très important. Là, c'est pas un petit festival. Ça s'appelle Bruxellon.
Oui, Bruxellon. Le festival qui a lieu effectivement tout l'été au château du Karreveld, c'est à Molenbeek. Donc c'est bien aussi d'en parler puisque ça change un petit peu l'image qu'on peut avoir de cette commune bruxelloise. Et la pièce, la création musicale cette année, c'est la comédie musicale Elisabeth. Elisabeth, c'est... Cici, impératrice. Cici. Hein, voilà, c'est Cici. Donc, pas de Romy Schneider, hein, vous doutez
oui, bien.
C'est Marie-Pierre de Brienne qui incarne donc Cici. C'est une création, en fait, qui date d'il y a 30 ans. C'est une création, donc ce spectacle Elisabeth, qui a été proposé à Vienne, tout d'abord, par Michael Kunz et Sylvester Levé. Et donc, c'est la première fois cette année qu'il l'a créé en français. Voilà, et donc, ça se passe au château du Karreveld, donc à Molenbeek.
Et on écoute Marie-Pierre de Brienne, « Moi seule choisis ma vie ».
Tu demandes, tu attends que je cède et obéisse. On m'entoure de serpents qui m'observent et me trahissent, mais nul ne décide qui je suis. Moi seule choisis ma vie. J'ai envie de percer les mystères du vaste monde, d'observer la couleur des eaux profondes, alors que m'importe ce que tu dis, je choisis ma vie, toujours et partout, tu me formes. force à plier, me dictant ce que je dois faire. Mais tel un oiseau, je saurai m'envoler et trouver enfin la lumière.
Voilà Marie-Pierre de Brienne dans le rôle titre de la comédie musicale Élisabeth qui est donnée cet été dans le cadre du festival Bruxellon dans le quartier de Molenbeek à Bruxelles. On termine avec vous Michel à Marseille et je crois que c'est la deuxième édition du festival international de mandoline.
Exactement. Alors l'histoire entre Marseille et la mandoline est très ancienne puisque cet instrument venu d'Italie, qu'on a souvent considéré comme quelque chose d'assez léger, hein, parce que quand on parle de mandoline, on pense à la tarentelle, enfin on n'est pas dans le sérieux. Et pourtant, il y a 101 ans que la classe de mandoline du Conservatoire National de Marseille existe. Et depuis quelque temps, elle est dirigée, cette classe, par Vincent Berdemander, qui est un jeune homme, qui a décidé de remettre tout ça au goût du jour. Alors, il a dépoussiéré en réorchestrant des œuvres célèbres. D'ailleurs, je crois qu'on écoutera quelque chose tout à l'heure. Et surtout, ouais. en faisant venir à Marseille des grands noms de la musique qui vont jouer de la mandoline. Et là, par exemple, il y a une création cette année autour de Brassens. C'est Jean-Claude Vanier qui a présenté je crois que c'est un vinyle, où il a réorchestré Brassens. Et là, cette année, ce sera réorchestré pour la mandoline avec des récitants, parmi lesquels Fanny Cottençon. C'est du 8 au 13 juillet dans plusieurs lieux de Marseille. Et il y aura quelque chose qui, moi, me fait rêver. C'est qu'il y aura 50 minots de Marseille qui vont aller sur scène pour jouer de la mandoline. Ils sont tous, pas tous au conservatoire, bien sûr, mais ils ont tous appris à jouer de cet instrument. Et je pense que ce sera un grand moment. C'est le premier concert de l'OMMM, c'est-à-dire l'Orchestre de Mandoline des Minots de Marseille. Ce sera le 8 juillet au Théâtre Tourski. Et 50 enfants venus de tous les quartiers qui vont jouer de la mandoline. Alors, avec un répertoire baroque, classique, romantique, populaire. Enfin, ici, ils sont vraiment mis, ces gamins. Et
bon,
c'est formidable.
Malheureusement, on ne va pas les écouter. On va écouter de la
mandoline.
On laisse
la surprise, quand même.
Voilà, on va écouter de la mandoline. On va écouter le maître Vincent Berdemander. Je ne vous dis pas ce que c'est, mais vous allez reconnaître.
Sans doute.
Voilà, le tube d'Ennio Morricone sous les doigts de Vincent Berdemander et de sa mandoline.
Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
Et cette effervescence que vous écoutez, merci pour votre fidélité. Nous sommes là tous ensemble, pas tous réunis dans le studio, mais presque, avec François, Valérie, Michel et Delphine. Et on va se mettre à marcher un peu bizarrement.
Walk like an Egyptian. Walk like an Egyptian.
Est-ce les 190 ans de la disparition de Champollion? Mais l'Égypte des pharaons est à la mode avec plusieurs expositions pour nous plonger dans l'Égypte antique. Alors au Louvre, une belle exposition un peu complexe, hein, nous raconte les pharaons des deux terres, ces pharaons africains. À la Bibliothèque nationale de France, c'est l'aventure des hiéroglyphes que l'on découvre avec cette exposition consacrée à leur découvreur Jean-François Chopolion. Deux expositions que l'on peut voir jusqu'au 24 juillet. Et puis à l'Institut du Monde Arabe, une exposition vient de commencer, exposition immersive pour se plonger au cœur de la pyramide de Khéops, expérience que l'on peut vivre jusqu'au mois d'octobre. Et enfin, à Marseille, ce sont les pharaons qui débarquent, une exposition au MUSEM, le grand musée marseillais, que vous avez vu pour nous, Michel.
Alors, cette exposition s'appelle Pharaon Superstar. C'est une exposition totalement en décalage, hein, par rapport à ce qu'on voit toujours sur l'Égypte. Alors, il y a les pharaons, mais les pharaons qu'on interroge sur la célébrité. Pourquoi est-ce que certains pharaons, comme Toutankhamon ou Cléopâtre, sont restés dans l'histoire, alors qu'en fait, ils n'ont pas fait grand-chose, hein, de leur vie? Parce que Toutankhamon a régné, grosso modo, 2 ans. Il est mort à 19 ans. Bon, il n'a pas trop eu le temps d'être célèbre dans son pays. Et pourtant, c'est celui qu'on connaît le mieux parce qu'on a découvert son trésor dans la pyramide. Et puis, il y en a d'autres, comme un certain, dont je ne trouve plus le nom, voilà, Nectanabo, donc je pense très peu de gens ont entendu parler. Et lui, pourtant, c'était un bâtisseur et c'est un des plus grands pharaons de l'Égypte antique. Donc, cette exposition va essayer d'interroger pourquoi certains sont devenus célèbres et d'autres pas. Alors, c'est avec la publicité, par exemple. Pourquoi est-ce que Cléopâtre a été un nom donné à un savon, alors qu'en fait, elle n'était pas si belle que ça? Pourquoi est-ce que dans la culture populaire, les pharaons ont une importance de plus en plus grande? Pourquoi, par exemple, les membres du groupe Ayam s'appellent Akhenaton et Khéops, entre autres? Pourquoi est-ce qu'on a comme ça cette iconographie des pharaons? Alors, il y a des images, des photos, des petites statues avec dans des sculptures, mais qui ont rien de sculpture antique. Hein. C'est une série, par exemple, de bustes qui va d'une couleur très claire à une couleur très foncée, parce qu'en fait, la Cléopâtre, elle n'était pas si blanche que ça, elle était presque noire. Hein. Bon, on peut le dire, même s'il ne faudrait pas dire noire, mais bon, elle avait la peau très foncée. Donc, voilà, c'est une façon d'aborder le mythe du pharaon à travers les âges, et c'est une façon très didactique, parce qu'alors il y a tout un parcours qui est fait à la fois pour les enfants mais aussi pour les malvoyants, et ça se touche, les pharaons vont se touchent pour être vraiment proches de tout le monde. Et donc c'est au MUSEM, il y a le temps, hein, jusqu'au 17 octobre prochain, donc voilà, on a le temps de s'interroger sur les pharaons et sur leur célébrité posthume.
Les pharaons superstars, c'est donc au MUSEM, et des pharaons, on passe sans transition au King.
If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed man.
Ça ressemble à du Presley, mais ce n'est pas du Presley, n'est-ce pas, Delphine?
C'est Austin Butler qui l'incarne au cinéma, qui l'interprète. Bah, d'ailleurs, finalement, sa voix est assez proche, hein, de celle d'Elvis. Donc, Austin Butler et Elvis Presley, et il est absolument impressionnant. Donc, dans ce film réalisé par Baz Luhrmann, et face à lui, il y a Tom Hanks qui incarne son impresario, agent, manager, le fameux colonel Tom Parker.
Le méchant,
alors, Tom
le
Hanks,
méchant.
Ah oui, le méchant. Voilà, ça c'est vrai. Et c'est vraiment le méchant. D'ailleurs, il est méconnaissable, hein, Tom Hanks dans ce rôle. Il se fond dans la masse adipeuse de ce personnage qui est un peu mal dégrossi, qui est un peu dégueulasse, pardon pour le mot. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que, en fait, l'histoire donc est racontée du point de vue de Parker. Et ce parti pris, vraiment, il est plutôt futé, parce que même si Parker essaie de se présenter comme un génie incompris, c'est lui qui a façonné le King, et bien le spectateur n'est vraiment pas dupe de sa duplicité. Et il est vraiment question davantage d'argent que de musique dans le film. C'est tout l'aspect gros sous, entreprise entreprise commerciale derrière Elvis qui est vraiment au centre de l'histoire. On n'a d'ailleurs même pas l'impression que Parker s'y connaisse ou qu'il aime la musique d'Elvis ou n'importe quelle autre en musique, ils sont fous. Ce qui est vraiment lui ce qui l'intéresse, c'est tout ce que ça peut rapporter. Donc Elvis, on le voit gamin, on le voit quand il est découvert donc par le fameux Parker. Et pour raconter cette histoire, ben Baz Luhrmann, franchement, faut bien s'accrocher au fauteuil parce que on en prend plein les yeux, on en prend plein les oreilles, mais plein les yeux parce que Baz Luhrmann, donc, a réalisé Gatsby le Magnifique. Bon. Pas un souvenir fabuleux, mais Roméo et Juliette, oui. Eh bien, Baz Luhrmann, il a la caméra qui bouge tout le temps. Ça colle bien, remarquez, au style de musique d'Elvis, à son côté nerveux, survolté. Il utilise aussi des fausses bandes-annonces, des fausses BD pour raconter l'enfance du King. En fait, il fait le show pour montrer les coulisses du show business, qui est aussi super intéressant vraiment, et ce qui est très très bien montré, c'est la relation complexe en fait entre Elvis et le colonel Parker. C'est son agent, oui certes c'est vrai, mais c'est aussi ce rapport complexe un petit peu père-fils, enfin père de substitution puisque son père est toujours vivant à Elvis dans le film, un petit peu manipulateur, marionnette mais victime consentante. C'est un petit peu le syndrome de Stockholm hein, quand même qui est montré. Il y a autre chose qui est très très intéressant, vraiment surtout à notre époque, hein, post-MeToo, c'est de montrer ce côté ultra sexy, électrisant d'Elvis, mais il est presque montré comme un objet sexuel. Et pour lui, bah, y a rien de honteux, et ce en quoi il a parfaitement raison, c'est que dans sa façon de bouger, son déhanché, sa façon de chanter, bah, c'est un don de Dieu. Et c'est ce que d'ailleurs sa mère lui rappelle. Donc vraiment un film qui est, comment dire, qui nous donne toute l'intensité effectivement d'Elvis, qui pose un regard sur la société américaine des années 50, des années 60, puisqu'on parle aussi bien évidemment de racisme, de ségrégation raciale. Si le King a autant marché, bah, c'est que c'était un blanc qui chantait comme un noir, et à cette époque c'était pas anodin. Et il y a deux scènes particulièrement, enfin il y en a plein, hein, mais moi il y en a deux que j'adore particulièrement, c'est la rencontre Parker-Elvis. En fait, Baz Luhrmann filme cette scène comme un prédateur qui ne va pas lâcher sa proie, et c'est vraiment fascinant. Et l'autre scène géniale, c'est quand Elvis est à Las Vegas, qui prépare son show, et il est en train d'orchestrer les arrangements de Suspicious Minds. Il sait ce qu'il veut, il dirige, et on voit aussi tout le respect des musiciens, des choristes. C'est une scène qui donne vraiment le frisson. Voilà.
Delphine.
Donc, Elvis, bon film.
Delphine, va écouter Suspicious Mind, mais on va écouter avec le vrai Elvis. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? Voilà, Elvis, c'est à voir au cinéma actuellement. On continue à parler cinéma. Ce fut l'un des événements du dernier festival de Cannes, la présentation d'une version restaurée du film de Jean Eustache, un film de 1973, La maman et la putain, un film pas vraiment salué au moment de sa sortie et qui, avec le temps, est devenu un film culte. François, c'est vous qui êtes allé voir la nouvelle version de La maman et la putain, mais vous étiez déjà un fan avant. On va écouter, alors peut-être juste nous dire un peu le pitch, on écoute un petit extrait et après on en reparle.
C'est un homme entre deux ou trois femmes, on ne sait plus très bien, incarné par Jean-Pierre Léo, avec une femme chez laquelle il vit, Marie, qui le materne un peu, c'est Bernadette Lafont.
La maman.
Une ex qui l'envoie bouler, et elle a bien raison, c'est Elisabeth Van Garten. Et puis Françoise Lebrun, qui joue le personnage de Véronica, infirmière à l'hôpital Laennec. Et voilà, il va être entre ces deux femmes.
Je suis persuadé que tout ce qui est arrivé dans le monde ces dernières années est totalement dirigé contre moi. Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les cheveux longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. La musique pop est devenue religieuse, et je n'aime que la musique populaire.
Je vous ai suivi parce que j'avais envie de rester avec vous.
Vous êtes très gentil, mais je ne peux pas.
Je croyais que vous ne faisiez rien.
Non, je ne fais rien, mais je vous ai dit, j'ai une vie bien remplie. Une femme me plaît, par exemple, parce qu'un homme que j'admire est amoureux d'elle. Quel plus grand hommage peut-on rendre à un homme que de lui prendre sa femme ?
Voilà, alors pourquoi est-ce que c'est un film important ? Pourquoi est-ce que c'est devenu un film culte ?
Peut-être parce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire cette langue, c'est très étrange. On ne parle, alors on a beaucoup reproché ça au film à sa sortie. On a dit, mais on ne parle pas comme ça. Oui, mais...
On a dit qu'il jouait mal, qu'il jouait faux.
On a dit qu'il jouait faux, que les dialogues étaient faux, que les intonations étaient fausses. Et en réalité, il y a une musicalité et de la langue et de la voix des personnages, et notamment de Jean-Pierre Léo. Donc il y a quelque chose sur le langage que je trouve extraordinaire. Et puis, il y a quand même ce personnage de Jean-Pierre Léo. C'est tout de même un des emblèmes du cinéma français. Et ce film, il fait la jointure entre la nouvelle vague, dont il est au fond l'accomplissement génial et presque gargantuesque, parce que c'est quand même 3h30, donc faut prendre le temps pour aller le voir.
La version 2022 a été rallongée encore.
Oui, mais c'est une petite scène sans importance en réalité. Ce qui est important, c'est que c'est vraiment on peut le voir au cinéma, ça faisait très longtemps. Et puis c'est ce qui fait le pont vers toute une génération de cinéastes qui sont encore en activité. Desplechin n'aurait jamais été Desplechin sans La Maman et la Putain. Comment je me suis disputé, c'est quelqu'un qui a été biberonné à La Maman et la Putain. Et alors évidemment, il y a ce côté très Saint-Germain-des-Prés qui peut paraître aujourd'hui un peu désuet, mais qui rend, alors avec le recul, ce film extrêmement poétique. C'est vraiment la modernité cinématographique dans toute sa splendeur, et moi je trouve que ça n'a pas pris une ride.
Juste pourquoi modernité cinématographique ? Expliquez-nous ça. Qu'est-ce qui est moderne dans ce film ?
C'est qu'il n'y a pas d'effet. Il n'y a aucun effet théâtral, et que là, véritablement, la doctrine du cinéma de Bresson et de la Nouvelle Vague a payé, c'est-à-dire qu'on refuse, même sur 3h30, le moindre effet théâtral au cinéma, et que c'est une autre réalité que la vraie vie qui s'impose dans la vie réelle du spectateur.
Écoutez, mon vieux, je dois vous dire que vos amours commencent à m'emmerder.
Je suis affreuse.
Mais vous avez une façon d'être affreuse qui vous va très bien.
Foutez-moi le camp ! Oust ! Je liquide !
Mon cœur est une fleur d'automne sans ça.
Comme vous êtes beau, comme vous êtes con, comme je vous déteste.
Je vous le donne.
Voilà, La Maman et la Putain, c'est à voir actuellement au cinéma dans une version restaurée.
Effervescence, quand la culture fait briller les yeux.
Et dans vos oreilles, c'est toujours Effervescence, une émission avec une pluie d'hommages. Cette semaine, après Bobby Lapointe, après Sissi, après Jean Eustache, je voudrais saluer la mémoire d'Yves Coppens, le plus célèbre des paléontologues français, est mort le 22 juin dernier. L'histoire ne dit pas si au paradis il retrouve Lucie, la plus célèbre de nos ancêtres, une petite australopithèque qu'il avait découvert en 1974 avec d'autres chercheurs dans un désert éthiopien. Sa passion, son enthousiasme, son talent de vulgarisateur avaient fait beaucoup pour populariser les recherches autour de la préhistoire. Je me souviens l'avoir interviewé il y a quelques années et l'avoir vu verser une larme à l'évocation de cette année 1974 où Lucy in the Sky des Beatles tournait en boucle sur les radios que lui et ses coéquipiers écoutaient sur le site de fouille. Voilà le pourquoi du prénom de Lucie à cette Australopithèque découverte en 1974 par Yves Coppens. Valérie, pour prolonger cet hommage à Yves Coppens, vous avez souhaité remettre à l'honneur un documentaire passionnant sur la grotte Chauvet, cette grotte ornée à quelques encablures du pont du Gard.
Oui, c'est un documentaire que moi j'avais vu à sa sortie en 2011 et que j'ai eu envie de revoir à l'occasion de la disparition d'Yves Coppens. Alors Yves Coppens, juste quelques ordres de grandeur, Lucie c'était il y a 3 millions d'années et la grotte Chauvet c'était il y a 30 000 ans. Donc c'est vraiment une petite jeune hein, par rapport à Lucie.
Et Lascaux, je crois que c'est 15 000 ans.
Exactement. Voilà, la grande découverte de Chauvet en 94, c'est que c'était deux fois plus vieux que Lascaux. Donc, ce qui est, par contre, la grotte Chauvet reste aujourd'hui les traces les plus anciennes qu'on ait trouvées d'art en fait sur Terre. Alors, ils se disputent un peu la date avec la grotte Cosquer, mais en tout cas, donc c'est ce que montre le documentaire, c'est ces formidables peintures rupestres qu'on a trouvées au fond de cette grotte qui a été masquée pendant 20 000 ans et qui du coup est extrêmement bien conservée. Et le documentaire, c'est une visite virtuelle, mais qui est vraiment plus vraie que nature et qui est surtout très émouvante. D'abord parce qu'il nous fait, Werner Herzog nous fait vraiment ressentir à quel point il y avait une expression, une volonté d'expression humaine dans ce dessin. Pour la première fois, c'est la première représentation du monde, c'est-à-dire ce sont des personnes, des hommes préhistoriques qui ont eu envie et qui ont eu conscience de vouloir laisser une trace de ce qu'ils étaient pour les générations à venir, et tout ça paraît fait hier, hein. Le trait est très très net, on va dire, et puis il y a des estompes qui donnent un peu de volume, enfin le tout est très vivant, et c'est grâce aussi à son travail de lumière, parce que donc c'était une équipe très réduite, hein. Il y a peu de gens qui ont le droit de rentrer, ils rentraient sur des périodes très courtes et avec peu de déplacements, donc ils balayaient les parois avec un faisceau de lumière qui donne vie au dessin de manière spectaculaire. Ça fait des espèces de clair-obscur expressionniste, c'est très 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 impressionnant. Et puis la dernière chose qui est passionnante, c'est qu'on a découvert à cette occasion-là, de manière tout à fait sérieuse et scientifique, que ces dessins étaient l'ancêtre du cinéma et que la volonté de ces dessins, de ces premiers dessins, était de recréer le mouvement. Et ce qu'on voit dans les dessins, c'est une succession, par exemple, de têtes de chevaux, de pattes de bison ou de cornes de rhinocéros qui sont mis côte à côte et qui donne une impression de mouvement, de galop. Voilà, c'est ce que Herzog appelle le proto-cinéma, et c'est vraiment assez spectaculaire.
La grotte des rêves perdus de Werner Herzog, c'est à découvrir sur les plateformes, hein, en ce moment. Vous pouvez le télécharger. Ce que je vous encourage aussi, bien sûr, c'est aller visiter la grotte Chauvet. C'est la reproduction, bien sûr. On n'est pas que dans la reconstitution, hein. C'est très, très bien fait avec un parc aussi très accueillant, et prévoyez bien la journée. Alors je ne sais si la photo de Lucie, notre ancêtre Lucie, est exposée à la Villa Empain à Bruxelles, mais en ce moment se tient là-bas une exposition Portrait of a Lady, et je crois, Delphine, que Lucie aurait toute sa place.
Ah oui, elle aurait toute sa place, Lucie, parce qu'effectivement, cette exposition Portrait of a Lady, c'est de représenter la femme dans l'art à travers le temps et les cultures, donc de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, de l'Orient à l'Occident et sur tous les supports, la sculpture, la peinture, le dessin, la photo ou même le film. Alors vous allez me dire, oh, mais ça part dans tous les sens. Eh ben non, parce que l'expo qui réunit 85 œuvres est déployée en 5 thématiques. Il y a à l'origine, femme dans un intérieur, nue, modèle muse, portrait et autoportrait, et la question du genre. Alors la Villa Empain, c'est un bijou de l'art déco, j'adore le répéter, mais c'est super important, c'est vrai. C'est vraiment un endroit parfait, puisque tout l'espace, du patio du rez-de-chaussée à toutes les pièces à l'étage, eh bien tout l'espace met en valeur chaque œuvre exposée, et réciproquement, chaque œuvre fait tellement corps avec le lieu qu'elle semble faire partie des meubles, si vous me passez l'expression un peu familière. Je pense par exemple à cette œuvre dans le patio de l'artiste contemporaine portugaise Joana Vasconcelos, création à base de crochets, de broderies. En plus, c'est un artisanat traditionnellement féminin qu'elle détourne, ou encore à celle de la photographe marocaine Lala Essaidi. Quand on monte l'escalier, elle questionne la place de la femme dans la tradition musulmane et occidentale en fondant ses modèles dans le décor. C'est justement son œuvre qui a été choisie pour l'affiche de l'expo. Je vous invite à la regarder. La femme allongée sur le divan semble faire corps comme un caméléon avec celui-ci, avec ce divan. Alors, je vais rien vous apprendre si je vous dis que la femme a été le plus souvent représentée par des hommes et que leur regard, qu'il soit religieux ou profane, d'ailleurs, nous a enfermés dans des stéréotypes, alors que ce soit sur la féminité, la beauté, la maternité. Au-delà de l'approche artistique, on a donc une double analyse à la fois sociologique et anthropologique. Alors, pardon, ça fait peut-être un petit peu un télo de dire ça, mais c'est important parce que l'exposition, elle parle autant à notre tête qu'à notre cœur à travers les yeux. Venez à Bruxelles, vous avez jusqu'au 4 septembre donc pour la voir. En plus, c'est juste à côté du Bois de la Cambre, la Villa Empain, Fondation Bogossian. Donc, ça sera une très belle journée. Venez.
Effervescence, Stéphanie Gallet.
On reste entre femmes avec maintenant une pièce adaptée d'un chef-d'œuvre d'une des grandes dames de la littérature française. C'est Barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras. Une adaptation théâtrale signée Anne Consigny est donnée dans le off du Festival d'Avignon. Petite particularité, Valérine Marniac, c'est un seul en scène, ce Barrage contre le Pacifique.
C'est une pièce qui va être jouée au Théâtre du Petit Louvre. C'est vraiment un des lieux les plus charmants d'Avignon, hein, puisque c'est une ancienne commanderie des Templiers dont il reste la chapelle. C'est une des deux salles. Et puis, il y a une plus petite salle à côté. Puis, il y a un petit patio ombragé où on peut se restaurer. C'est vraiment très agréable. Alors, elle va jouer tous les jours à 10h20 le matin. Et c'est effectivement un spectacle qu'elle a vraiment porté, écrit, adapté, réalisé. Donc elle fait vraiment tout. Elle joue les quatre personnages. Elle joue donc la mère, le frère, la sœur et Monsieur Jo. Donc en deux, bon, je raconte pas l'histoire, on la connaît. Hein, c'est largement autobiographique. C'est l'histoire de cette femme veuve qui achète une concession en Indochine, qui s'avère totalement incultivable car inondée par les grandes marées. Voilà, et c'est vu par les yeux de ses enfants, notamment de sa fille, donc Marguerite Duras. Donc un seul en scène très sobre. Il y a juste quelques éclairages, un peu de musique par moment, et effectivement elle joue les quatre personnages. Donc elle change à chaque fois d'intonation, de posture du corps, d'expression du visage. Elle est très exceptionnelle. Alors on la connaît un peu au cinéma, hein, et à la télévision, Anne Consigny, mais c'est une grande actrice de théâtre. Elle a commencé à 9 ans. Elle a joué avec Jean-Louis Barrault, avec Peter Brook. Elle est rentrée à la Comédie Française à 18 ans. Donc c'est vraiment une vraie femme de théâtre. Pour ce spectacle, elle a fait un choix d'extrait, hein, qui lui tenait à cœur. C'est un spectacle engagé, on pourrait dire. C'est un vrai manifeste féministe, hein. Elle a vraiment choisi cet angle-là, c'est-à-dire ce combat de cette femme. Mais pour elle, tant la mère que la fille représentent de manière assez universelle et intemporelle la condition féminine absolue face aux difficultés, voilà. Et
je vous propose d'écouter l'ouverture de ce Barrage contre le Pacifique avec Anne Consigny.
Il leur avait semblé à tous les trois que c'était une bonne idée d'acheter ce cheval, même si ça devait servir qu'à payer les cigarettes de Joseph. D'abord, c'était une idée. Ça prouvait qu'ils pouvaient encore avoir des idées. Cela dura 8 jours. Le cheval était trop vieux, bien plus vieux que la mère pour un cheval. Un vieillard centenaire. Il essaya honnêtement de faire le travail qu'on lui demandait, et qui était bien au-dessus de ses forces depuis longtemps. Puis il creva. Ils en furent dégoûtés. Si dégoûtés en se retrouvant sans cheval sur leur coin de terre, dans la solitude et la stérilité de toujours, qu'ils décidèrent le soir même qu'ils iraient tous les trois le lendemain à Rame pour essayer de se consoler en voyant du monde. Et c'est le lendemain à Rame qu'ils devaient faire la rencontre qui allait changer leur vie à tous.
Le Barrage contre le Pacifique avec et de Anne Consigny, c'est au Théâtre du Petit Louvre à Avignon dans le Festival Off.
Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
François, vous revenez avec un artiste qu'on a déjà écouté dans cette émission, c'est Olivier Rocabois qui sort un nouvel EP. Un EP, c'est un mini-album.
C'est ça, je vous avais parlé de son album précédent, c'est la mode des EP revient, c'est-à-dire ces disques avec 5, 6 morceaux, parfois 7. Là, c'est 5 morceaux assez longs. Le EP s'appelle The Pleasure is Goldmine. On a écouté tout à l'heure Lucy in the Sky des Beatles. Paul McCartney est une des grandes références de Rocabois. Avec aussi, je pense, dans ce morceau, Brian Wilson, le leader des Beach Boys. On entend quelque chose qui ressemble beaucoup à cet univers, avec quelque chose de très, vous allez voir, d'assez mélancolique et en même temps très doux et très ample, parce que la voix de Rocabois, elle est incroyable. Il a déjà interprété cette chanson tout seul, sans instrument.
nouvel EP d'Olivier Rocabois, acheté chez votre disquaire si vous en connaissez un, ou écouté sur les plateformes. Merci François. Michel, avec vous, on passe aux choses sérieuses. On va à Arles pour découvrir une exposition photo de Jacqueline Salmon, s'appelle Le Point Aveugle, et ça parle du périzonium. Mais de quoi s'agit-il ?
Alors, le périzonium, c'est un caleçon à l'origine. Un caleçon que portaient les Crétois il y a longtemps. Mais c'est surtout connu pour être le pagne qui entoure les reins du Christ en croix. Alors, vous savez, c'est ce truc drapé, là, hein, qui est un cache-sexe, on va dire. C'est un voile de pudeur et qu'on retrouve dans toutes les expressions de la passion. Et donc, Jacqueline Salmon s'est aperçue qu'il n'y avait pas du tout de travail fait autour de ce périzonium. Alors, sur la passion, on a tout étudié, la présence des femmes autour, la façon dont était présenté le Christ sur la croix, ou bien allongé à la descente. Enfin, on a tout fait, sauf ça. Et donc, elle s'est intéressée à ce bout de tissu, et elle a photographié toutes ces représentations dans les musées, dans les galeries d'art, chez les antiquaires, dans les églises aussi. Et elle l'a photographié, mais pas juste comme ça. Hein. Elle a donné un point de vue, c'est-à-dire qu'elle s'est rapprochée, elle l'a cadré pour voir l'évolution de ce périzonium à la fois à travers les siècles, à travers le regard des artistes, qu'ils soient peintres ou sculpteurs, mais aussi à travers la théologie. Parce que la théologie s'est mise au milieu pour dire, bon, ben, on va tout cacher, ou on va montrer un peu, ou on va rien montrer du tout. Puisque Michel-Ange, par exemple, à une époque où on était peut-être un petit peu plus libéré, montrait d'un Christ totalement nu. Il n'y avait pas de périzonium. C'est aussi une façon d'en parler. Et puis, il y a tous les artistes qui ont mis leur patte dans cette représentation. Par exemple, Chagall, qui a représenté un Christ avec ce pagne, a utilisé un voile de prière juif. Il l'a transformé avec ça. Picasso y a mis une cape de torero. Donc, vous voyez, chacun y a apporté sa façon de voir, sa façon de s'exprimer, d'exprimer soit son art, soit sa foi, soit juste comme ça, son regard. Et donc, Jacqueline Salmon propose un parcours en 14 parties. 14, ben, c'est les 4 stations du chemin de croix. Hein. Mmh. Donc, c'est pas un hasard. Et elle propose cette vision à travers son regard de photographe et ses cadrages de photographe. Et c'est assez impressionnant de voir que, à travers les siècles, ça court du 11e au 20e siècle, hein, à travers les âges, à travers les époques, ce périzonium est à la fois une illustration artistique, c'est à la fois un voile de pudeur à travers les époques, et c'est aussi une relique pour l'Église, puisque le périzonium, c'est quand même une relique de l'Église.
Jacqueline Salmon, Le Point Aveugle, c'est au musée Réattu à Arles, et on a jusqu'à l'automne pour aller l'admirer.
Octobre. Ça commence le 2 juillet.
Voilà, voilà. Je vous l'avais promis, hein, on termine en poésie avec Bobby Lapointe. Il aura eu 100 ans cette année et on ne s'alasse pas de découvrir ses chansons. Juste pour vous, une petite perle qui finit mal, petit homme qui vit d'espoir.
Petit homme qui vivait d'espoir, rencontra sur la butte un soir. Femme, enfant, de grande beauté, fille, fleur aux souliers crottés. Aussitôt, son cœur a bondi, j'ai senti l'âme d'un bandit. Il y avait du bonheur à ravir, à une fille belle à ravir. L'aborder lui a dit bonsoir, je suis l'homme le plus riche d'espoir. J'en ai trop, j'en ai bien pour deux, et de vous je suis amoureux. J'ai l'espoir de toujours vous voir, j'ai l'espoir bientôt vous avoir. J'ai l'espoir de mettre à vos pieds les richesses du monde entier. Après ses plus jolis espoirs, les amis dans un grand mouchoir. À la belle il les a donnés, mais la belle les a piétinés. Elle a dit le truc de l'espoir, on me l'a déjà fait, pas d'histoire. Offre-moi des réalités, sinon sur moi faut pas compter. Petit homme qui vivait d'espoir, a pleuré dans son grand mouchoir, a pleuré tout ce qu'il savait et aussi ce qu'il ignorait. Et monté sur la tour Eiffel, il s'était lancé vers le ciel. Et retombé sur la chaussée, son sang en tout éclaboussé. Les passants de sang tout taché sont allés se faire détacher. Du moment qu'il y a des teinturiers, faut bien les faire retravailler.
Et voilà, Petit homme qui vit d'espoir, c'est la dernière de cette première saison, dernière d'effervescence. C'est promis, on se retrouve en septembre prochain. Merci à tous ceux qui ont rendu cette aventure possible, particulièrement aujourd'hui Delphine, François, Michel et Valérie. Et puis bien sûr, hein, Pierre Samanos, l'artisan, l'artiste de cette émission. Merci aussi à tous les studios des Radio RCF qui ont rendu les duplex possibles. Je vous souhaite un très très bel été, plein d'effervescence et plein d'émerveillement. Je vous confie une dernière citation. Je ne connais absolument rien à la musique. Pour ce que je fais, je n'en ai pas besoin. Et c'est signé Elvis Presley. Bon été à tous.